Radio Django, 18-19h.
18h30 exactement et on passe à la rose des vents. On continue la rose des vents et nous parlons d'économie domestique, Daniel, et plus spécifiquement des femmes sans statut légal d'employée dans ce secteur en plein essor. Ce secteur serait-il devenu indispensable au dit bon fonctionnement de la société ?
Alors en effet, l'économie domestique est devenue un véritable marché de l'emploi, répondant notamment au manque d'infrastructures collectives comme les crèches ou les unités d'accueil pour écoliers, sans parler des lieux de vie pour personnes âgées. Le problème n'est pas tant le travail domestique, mais le manque de reconnaissance et de visibilité des personnes qui travaillent dans ce secteur et leurs conditions de travail.
Combien de personnes, Daniel, travaillent dans l'économie domestique et quel est leur profil actuellement ?
Alors en Suisse, on compte plus de 100 000 personnes travaillant dans les ménages privés comme employés de maison ou garde d'enfants. La plupart de ces postes sont occupés par des femmes migrantes sans statut légal et sans permis de séjour, bien sûr, et elles restent exposées à diverses formes de précarité et d'abus. Et malgré la campagne lancée en 2013, aucune employée de maison n'est illégale. Les personnes sans statut légal, employées dans l'économie domestique, restent soumises aux incohérences du marché du travail et des décisions en matière de politique migratoire.
Ouais, un sujet qui semble passablement délicat. Pour en parler ce soir, nous accueillons Sylvia Marino, bonsoir.
Bonsoir.
Et également Julie Michelet, bonsoir.
Bonsoir.
Sylvia Marino, vous êtes d'origine bolivienne, vous avez travaillé sans papier dans l'économie domestique. Aujourd'hui, vous êtes régularisée et vous n'avez pas oublié votre combat et vous militez toujours pour soutenir les femmes sans statut légal, prisonnières d'une forme d'esclavage moderne. Quant à vous, Julie Michelet, vous êtes en stage dans le domaine de la migration au sein des œuvres d'entraide. En septembre 2016, vous présentez votre mémoire de master portant sur l'articulation des revendications entre militants associatifs ou syndicaux et migrants sans papier au sein de la coordination vaudoise pour la campagne nationale « Aucun employé n'est illégal ». Portée par l'association « Reconnaître le travail domestique, régulariser les sans-papiers », cette campagne d'envergure nationale est lancée en 2013 par la plateforme nationale pour les sans-papiers. Plusieurs syndicats, des associations et des œuvres d'entraide de Suisse ont participé également à cette campagne. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour quelles raisons le travail domestique rime souvent avec précarité, Julie ?
Le travail domestique, donc, je peux peut-être aussi rapidement préciser qu'il ne concerne pas seulement le fait de faire le ménage, les courses ou la cuisine, mais également toutes les activités qui ont lien au care, donc au fait de prendre soin d'eux. Donc ce travail n'est pas toujours pas reconnu comme une véritable activité professionnelle et donc cela se traduit notamment par le fait qu'il n'est pas rémunéré quand on le pratique pour son ménage, mais également qu'il l'est très mal lorsqu'il est délégué. Le fait que cette activité ne soit pas reconnue comme un véritable travail fait qu'on ne reconnaît pas encore l'importance de ce secteur économique en Suisse et que ce n'est pas un motif d'immigration valable. Un autre signe de déconsidération dont souffre ce secteur est le fait que la loi sur le travail ne s'applique pas à ce secteur, et donc le manque de couverture institutionnelle place dans une situation de vulnérabilité importante les travailleurs, et où la dépendance donc à l'égard de l'employeur est totale, et où les possibilités de se défendre sont quasi inexistantes. La qualité de vie de ces personnes dépend donc essentiellement de leur aptitude à trouver un emploi, et surtout après de le garder.
Donc finalement, face à ce manque de reconnaissance, en 2014, plusieurs collectifs de soutien aux sans-papiers et des associations de défense des droits des migrants soutiennent la campagne nationale « Aucune employée de maison n'est illégale ». Finalement, quels ont été les principaux motifs de cette campagne ?
Les constats sont doubles, qui mènent à cette campagne sont doubles. C'est tout d'abord, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, le nombre de plus en plus important de personnes sans papier qui travaillent dans ce secteur.
Environ 40 000 personnes.
Environ 40 000 personnes en Suisse, oui, tout à fait. Donc ça signifie en d'autres termes qu'une personne sans papier sur deux travaille dans ce secteur d'activité. Les besoins vont donc en augmentant dans ce secteur et ne sont pas couverts par l'offre des services publics, ni par ailleurs par celle des services d'aide ou de soins à domicile. Et aujourd'hui, on réalise que sans l'apport de ces personnes migrantes et surtout sans papier, on ne pourrait pas fonctionner. Donc elles sont économiquement essentielles, mais elles sont toujours invisibles de par leur activité et de par leur manque de statut. Ce qui implique qu'elles n'ont souvent aucune protection sociale et que, bien que l'accès aux tribunaux des prud'hommes soit en général garanti sans risque de dénonciation, ça fonctionne très mal dans les faits. Donc cette situation, pour les tenants de la campagne, ils soulevaient le fait que ça représente une aubaine pour certains, que c'est une solution à bas coût pour la Suisse qui lui permet d'une part de pallier le manque d'infrastructures collectives et de ne pas avoir à remettre en question l'organisation sociétale qui repose encore fortement sur la division sexuelle du travail.
Mais finalement, quelles ont été les principales revendications de cette campagne ?
Donc, les buts prioritaires ont été de lancer un véritable débat sur la valorisation du travail domestique et par extension de faire reconnaître l'importance de ce secteur d'activité économique pour la Suisse, de régulariser les employés de maison présents sur le territoire ainsi que de décriminaliser les employés et leurs employeurs tant que ceux-ci respectent le contrat type de travail en vigueur. Et finalement, comme je le disais tout à l'heure, de rendre accessible aux sans-papiers sans risque de dénonciation l'accès aux tribunaux des prud'hommes ainsi que l'affiliation aux assurances sociales.
Quelle a été la portée de cette campagne qui a pris fin en décembre 2014 ?
Le bilan qu'on peut en faire reste mitigé parce que le point principal, c'est que les réalités cantonales sont souvent trop différentes et ça a été un frein pour l'élaboration d'objectifs politiques communs.
Quand vous parlez de distinction en fait, entre la Suisse allemande et la Suisse francophone,
ouais,
est-ce que ça a vraiment posé un problème ?
Pour se mettre d'accord sur les objectifs, je pense que oui.
Parce que c'était une campagne nationale, hein, il faut le repréciser.
C'était une campagne nationale, tout à fait. Et en fait, ce qui peut apparaître comme étant un progrès pour certains cantons, finalement constitue un recul pour d'autres. Dans les cantons de Vaud et Genève, par exemple, l'accès aux tribunaux des prud'hommes fonctionne relativement bien, mais pas du tout ailleurs. Donc on a des réalités qui sont vraiment très différentes. Et je pense que ça a été un frein important, mais on peut tout de même dire que le débat a pu être entamé, que ça a été une bonne chose pour ça.
Mais finalement, le débat reste mitigé à cause de ces dissensions entre les deux Suisses.
Le bilan de la campagne, disons, oui, effectivement.
Sylvia, vous êtes une ancienne membre de l'association Reconnaître le travail domestique, régulariser les sans-papiers, une campagne que vous avez suivie et à laquelle vous avez largement participé. Quel est votre bilan ?
Un peu comme Julie, je partage son point de vue. Hein, c'est un bilan mitigé, si bien il a permis de montrer que la problématique ne touche pas la Suisse romande seulement, ça touche aussi la Suisse alémanique, mais elle a aussi montré combien cette problématique est traitée différemment. Et que ça a mis aussi en évidence que les personnes qui habitent en Suisse alémanique sont moins bien défendues que les personnes en Suisse romande. Il y a même une blague qui court qui dit « c'est mieux d'être sans papier à Genève qu'à Zurich ».
Qu'à Zurich.
Donc c'est tout dire. Et puis voilà, et puis on a montré aussi qu'on n'était pas... qu'il y avait tellement de difficultés, on n'a pas tout... La campagne n'a pas tout résolu. Elle a permis juste d'entrer en matière. Et puis la convention de l'OIT aussi, qui a été signée, ça aussi a permis une discussion plus large. Et puis ça a permis aussi cette traité qui doit être signé par la Suisse, ratifié par la Suisse.
Bon, ce qui serait aussi intéressant, c'est de comprendre finalement comment est-ce que par votre travail, Julie, vous avez pu analyser ces articulations entre les revendications donc des militants, des milieux associatifs et des migrantes. Et il semblerait qu'à cet égard, il y a des nœuds dans ce sens où on sait très bien que la lettre en fait ne reconnaît en fait finalement que le travail en fait des personnes qualifiées, ce qui exclut d'office les personnes migrantes. Et il y a le problème de cette loi du marché du travail qui ne reconnaît pas le travail domestique. Finalement, quelle est la marge de manœuvre des réseaux de soutien ?
Effectivement, la marge de manœuvre des associations de soutien, elle est tout à fait limitée. Et puis je pense qu'il faut relever que c'est en grande partie grâce au fait que de nombreuses organisations émanant de la société civile ont su garder le dialogue ouvert avec les autorités, que des compromis sont scellés au fur et à mesure pour améliorer le quotidien de ces personnes. Après, je pense que la chose qui est la plus importante dans cette campagne, c'est effectivement l'autonomie des personnes sans papier pour s'investir dans ce type de campagne. C'est que il y a le paradoxe qu'elles revendiquent des droits au sein d'un système duquel elles sont finalement exclues. Donc ça limite tout à fait la parole. Et puis, si on va plus loin dans ce sens, peut-être qu'on peut peut-être même parler de sous-citoyenneté parallèle qui s'opère parce qu'elles ont une vie finalement à peu près normale en ayant des enfants, en travaillant, mais le droit à la parole est par contre, lui, difficile.
Parlant du droit à la parole, Sylvia, est-ce que vous avez eu le sentiment que le soutien en fait, des associations était suffisamment en fait, dense pour arriver au bout de vos objectifs ?
Je pense que le soutien des associations sont là, c'est plus la sourde oreille des politiciens qui a posé problème et qui, cette différence qu'on fait entre ce qui se passe dans la Suisse romande et ce qui se passe dans la Suisse alémanique coupe tout élan des associations. On n'est pas du tout dans la même situation à Genève qu'à Zurich. À Zurich, on risque de se faire renvoyer parce qu'il n'y a pas des institutions assez fortes pour représenter ces personnes, alors qu'à Genève, si on a un problème, il y a quand même un réseau bien formé qui travaille depuis des années sur le terrain. Donc, ces renvois seront moins vite et plus difficilement aussi.
Mais concrètement, qu'est-ce que vous auriez pu attendre du soutien des collectifs ?
J'aurais aimé que les grandes organisations qui ont des réseaux déjà établis, soit par des bureaux, aient ouvert un travail beaucoup plus, s'inspirer vraiment de l'expérience genevoise pour mettre ça en place. Je sais que ça prend des années, mais les associations comme EPR ou UNIA qui ont des réseaux dans toute la Suisse, s'ils avaient pu faire un travail peut-être plus... Ça aurait été très bien. Mais peut-être avec les temps, ça va venir. C'est juste une discussion.
Et est-ce que vous pensez que le potentiel d'auto-organisation, justement, des femmes migrantes sans statut légal est possible en Suisse ?
Je pense que oui. Il faut juste le soutien. Il faut juste sentir qu'on peut parler sans se sentir menacé d'expulsion. On peut faire ça. Parce que les femmes sont assez courageuses. Quand il faut défendre quelque chose, elles le font. Et puis... ça, je compte vraiment sur elles. Elles sont très, très courageuses.
Julie, en 2014, la Suisse signe la Convention 189 de l'Organisation internationale du travail pour un travail décent pour les travailleurs et travailleuses. Mais finalement, qu'est-ce que cette signature a concrètement changé pour les femmes sans statut légal ?
Aujourd'hui, encore pas grand-chose, malheureusement, mais je pense que ça peut être un instrument qui va être utile pour continuer à soutenir ces revendications. Elle ne règle pas le problème de la loi sur le travail, elle ne règle pas le problème des sans-papiers en Suisse, mais ça peut être un instrument et un bras de levier pour l'avenir.
Ouais, donc on gardera bien en tête que la signature de la Convention 189 de l'OIT, l'économie domestique, reste en Suisse un vrai problème. Une régularisation collective des femmes sans statut légal s'impose. Une petite question subsidiaire qui me vient, puisqu'on parle de femmes ce soir, est-ce que c'est le même problème pour les hommes ? Est-ce qu'il y en a autant ?
Alors effectivement, il ne faut pas oublier qu'il existe aussi des hommes qui travaillent dans l'économie domestique. C'est une très bonne question.
Si.
Et oui, mais donc...
Ils peuvent militer avec vous.
Ils sont les bienvenus.
Ah ben c'est parfait, voilà, c'est ça qu'on voulait entendre. Merci beaucoup Julie Michelet, merci Sylvia Marino d'être venue nous parler ce soir d'économie domestique au micro de Daniel, ici sur le plateau de Radio Django, une chronique à retrouver et à écouter en intégralité sur notre site www.django.fm.